Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est la présidente d'un collectif de femmes au service des autres femmes. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Soumaïa Benjelloun, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Soumaïa ?
Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très touchée.
Ben, plaisir vraiment de te recevoir. Alors Soumaïa, toi depuis un peu plus d'un an déjà, tu es la présidente de l'association We For She, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et tu es également directrice générale d'une entreprise.
Absolument.
Absolument.
Depuis 25 ans, une entreprise que j'ai cofondée il y a 25 ans déjà.
Ok. Alors, retour sur We For She. Est-ce que, pour celles qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux leur expliquer qu'est-ce que c'est exactement ?
Bien sûr. Alors, We For She est une association de droit marocain qui a été lancée en 2020 par un collectif de femmes dirigeantes et dont la mission est d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances de décision des entreprises. Donc c'est une mission qui est très, très ciblée, mais plus globalement, on milite quand même pour l'égalité professionnelle, l'égalité homme-femme, on essaie de sensibiliser contre les biais de genre. Nous avons des outils de soft law comme notre charte de la diversité du genre, qui nous permet de sensibiliser et d'onboarder avec nous des entreprises qui s'engagent pour plus de mixité dans les recrutements, pour l'égalité salariale, pour justement la mixité dans les comités de direction, dans les comités exécutifs et dans les conseils d'administration, et globalement pour mettre en place toutes les actions possibles et concrètes qui permettent d'améliorer l'égalité au sein de l'entreprise et l'inclusion.
Alors, le collectif est purement féminin ?
Il est purement féminin.
Féminin.
C'est un parti pris.
Ouais.
Voilà. Et je voudrais rajouter que We For She a une dimension de sororité très importante. C'est en ça qu'elle se distingue clairement de beaucoup d'autres associations féministes d'ailleurs aussi. On revendique aussi le qualificatif de féministe. Et elle s'est construite sur cette sororité. Donc, c'est un collectif de femmes. C'est un collectif de femmes qui deviennent amies, qui crée des liens très forts entre elles. D'ailleurs, tout au long de l'année, on a des événements, différents événements, des gatherings où on réunit justement notre communauté pour tisser ce lien qui se renforce d'une année sur l'autre. Et automatiquement, se créent aussi des liens non seulement d'amitié, mais aussi professionnels, des opportunités d'affaires, des collaborations. C'est de manière tout à fait spontanée.
Oui.
Voilà.
Alors, justement, en 2020, quand ce collectif féminin s'est rassemblé pour lancer cette association, et c'est bien sûr, en fait, pour défendre la place de la femme dans un monde d'hommes, vous avez reçu quelle réaction de la part des hommes ?
Franchement, on a reçu des réactions très positives. Au contraire, on a vraiment jamais reçu de réactions négatives. On avait fait d'ailleurs même une conférence de lancement où on avait affiché toute une mosaïque avec tous les visages de nos membres. Et ça avait suscité de très, très jolies réactions. Et d'ailleurs, quand on a fait notre événement de lancement, on avait invité autant d'hommes que de femmes. On avait organisé un panel. Il y avait Hamda Redachani, je me souviens bien. Il y avait aussi Mustapha Mourahid, un avocat, donc à côté de femmes. Et donc, voilà, on a installé dès le départ notre positionnement, un collectif de femmes qui se bat pour la place de la femme dans les entreprises et dans le marché du travail en général. Mais nos interlocuteurs sont aussi des hommes parce que, par exemple, les entreprises signataires de notre charte, qui sont aujourd'hui près d'une centaine, sont dirigés la plupart par des hommes. Donc, ce sont aussi nos partenaires. Et c'est une communauté avec laquelle on interagit toute l'année aussi, avec qui on organise des événements, chez qui on va faire de la sensibilisation. Donc, les hommes sont nos alliés, bien au contraire.
Oui.
Et d'ailleurs, le We For She se veut inclusif. Voilà, il y a oui.
Oui, absolument. Oui, nous. Non, au sens large.
Ouais, exactement.
Ouais.
Et nous, hommes, femmes, pour la place de la femme.
Alors, quand on parle de la place de la femme dans le monde professionnel, au sein des entreprises, dans les hautes instances, c'est ce qu'on appelle communément le fameux plafond de verre.
Absolument.
C'est ça. Alors, ce plafond de verre, de par ton expérience et de par à travers justement ce que tu as pu observer, notamment à travers WeFoShe, qui installe ce plafond de verre? Ou comment
ça s'installe?
Ouais.
C'est multifactoriel. Déjà, ça démarre petit par l'éducation. L'éducation qu'on donne à sa fille, par l'ambition qu'elle peut développer grâce à sa structure familiale, grâce à ses parents qui vont la pousser à faire des études, à voir loin, à se projeter dans une vie professionnelle. Donc ça, je pense que déjà la famille, c'est l'élément central, l'éducation. Après, il y a la société, il y a les normes sociales en général qui vont faire pression sur la femme au fur et à mesure qu'elle évolue dans sa vie de femme. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a beaucoup de femmes diplômées, et de plus en plus, de diplômées du supérieur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on a peut-être quelque chose comme 55% de femmes diplômées du supérieur. Donc, il y a plus de femmes qui sont diplômées que d'hommes, et en plus, elles sont brillantes. Malheureusement, on ne les retrouve pas sur le marché du travail. On a un taux d'emploi féminin de 19%, qui ne cesse de baisser depuis 15 ans, de manière continue. On est, on peut le dire, des derniers de la classe de la région MENA, hein, vraiment. Et c'est un taux sur lequel on travaille aujourd'hui au sein de WeFoShe. D'ailleurs, on s'est un peu même construite autour de en réaction à ce taux d'emploi féminin qui est aussi faible. Et on a du mal à se l'expliquer. Donc oui, effectivement, il y a les normes sociales, il y a l'éducation, mais une fois en entreprise, il y a le fait que les entreprises ne sont pas organisées pour les femmes. C'est-à-dire le monde de l'entreprise, il est assez dur et il n'est pas adapté pour un fonctionnement féminin d'une femme qui devient épouse, puis mère, puis souvent aidante de parents âgés. Il n'y a pas d'aménagement du temps de travail, il n'y a pas de structure d'accueil pour les enfants, il n'y a pas de crèche d'entreprise, il n'y a pas de flexibilité dans les horaires. Le monde du travail n'a pas été conçu à la base pour les femmes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Souvent, à l'occasion du mariage, les femmes abandonnent leur travail. Et vraiment le point critique, c'est surtout quand la femme a son premier enfant. Mmh. Elle se rend compte qu'elle n'a pas de structure avec qui laisser son enfant, que ce soit des structures de quartier, par exemple des crèches tout simplement de quartier ou des modes de garde alternatifs. Elle n'a pas avec qui laisser son enfant. Ou si elle veut laisser son enfant à faire garder, ça va lui coûter trop cher par rapport au salaire qu'elle va gagner. Donc, elle voit ça au début de sa carrière. C'est normal, au début de sa carrière, une femme, elle n'a pas un très gros salaire, elle démarre.
Oui.
Forcément, les frais de garde sont représentent un gros pourcentage de son salaire. Mais elle n'arrive pas à se projeter en se disant « Mais si je travaille, je vais évoluer. Si j'évolue, je vais améliorer mes conditions salariales, mes conditions de vie. Je pourrais plus faire garder mon enfant. Oui. » Donc, en fait, c'est sur ça qu'on essaye d'agir. Mais vraiment, le point critique, c'est au moment du premier enfant, enfin, on perd toutes ces femmes diplômées et c'est là que voilà, le plafond de verre a du mal à être brisé. Mmh.
On parle aussi du fameux gender... Pardon, vas-y, Soumeya.
Oui, il y a aussi le plafond de verre pour les femmes qui restent en poste,
oui, okay,
qui font partie du middle management, mais qui n'arrivent pas à atteindre les plus hauts postes de top management, intégrer les codires et les comex, là où se prennent vraiment les vraies décisions, les lieux de pouvoir réels dans l'entreprise. Mmh. Elles restent souvent cantonnées à des jobs dans le middle management. Elles n'arrivent pas à percer plus loin.
Et ça, c'est dû à quoi?
On parle de plafond. Alors, souvent, j'ai envie de dire, souvent, les femmes s'auto-censurent. Et ça, c'est ce qu'on a observé, c'est ce qu'on observe tous les jours. Il y a aussi un frein que les femmes se mettent psychologiquement seule. Elle s'est dit « je ne vais pas y arriver ». Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposteur, sur lequel on travaille énormément, sur lequel on a fait une capsule de sensibilisation. Ce fameux syndrome de l'imposteur, malheureusement, il concerne d'ailleurs souvent les femmes et les hommes, mais beaucoup plus les femmes. Une femme, quand elle a une opportunité, par exemple, de prendre un job, que ce soit une annonce ou une opportunité de job qui s'ouvre dans son entreprise, elle va attendre d'avoir 120% des qualifications nécessaires. Elle va attendre d'être overqualifiée, sinon elle ne va pas y aller. Elle ne va pas se sentir apte. Un homme, il a 70% des qualifications jugées nécessaires, il y va. Il y va, il tente. Il n'a pas ce complexe-là.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les femmes doivent vraiment absolument travailler.
On a aussi le fameux gender pay gap.
Oui.
Alors, est-ce que c'est vrai, ça?
Ah, bien sûr, mais il est universel, le gender gap.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est universel, il est même documenté, mais on a du mal à y croire, en fait.
Bien sûr. Il est autour de 20%
ouais.
entre les hommes et les femmes.
Alors ça, par contre, Soumaïa, justement, comment ça se décide? Comment on se dit, une femme, on va lui donner 20% de moins du salaire qu'un homme, c'est-à-dire les deux derniers mois de l'année, c'est comme si elle travaillait gratuitement par rapport à un collègue de sexe masculin.
Alors là aussi, je vais vous dire, la femme, pour en avoir discuté encore très récemment avec une amie, membre de We4She, qui est DRH dans une banque, elle me disait que quand une femme arrive pour un entretien d'embauche, bien sûr, elle passe l'entretien, elle a les diplômes, elle a les qualifications nécessaires, donc ça, c'est pas un souci. Vient la question de la prétention salariale. Et souvent, la femme répond ce que vous voulez. C'est pas une réponse, ça. C'est pas suffisant. Affirmer. Normalement, on a un diplôme, on a une qualification, on a un niveau de salaire qu'on est en mesure de demander, et ensuite, ça se négocie. Elle ne donne pas des chiffres. Déjà, quand vous dites « vous voulez », ben, la boîte, elle vous paye ce qu'elle veut.
Ce qu'elle veut, absolument.
C'est pas forcément assez élevé. Donc déjà, négociation à l'entrée. C'est important de rentrer avec le bon salaire. Et il y a les cas où hommes et femmes vont rentrer avec le même diplôme, les mêmes qualifications, le même salaire. Mais pendant la révolution, les hommes vont aller réclamer une augmentation ou un bonus chaque année au RH ou alors N+1. Les femmes, elles vont hésiter à le faire. Elles vont le faire une année sur trois. Elles vont attendre qu'on les augmente, que ça vienne du boss. Elles ne vont pas aller demander. Là, c'est un problème d'assertivité, d'affirmation.
D'assertivité.
Et là aussi, c'est une forme d'assertivité, une forme de syndrome de l'imposteur aussi. On n'ose pas. On peut y aller. Voilà.
Alors,
donc, la femme doit s'accorder de la valeur et aller réclamer son juste prix.
Et ça, est-ce qu'on le retrouve justement par rapport à ce sujet en particulier, le ce que vous voulez pour le salaire, est-ce qu'on le retrouve à n'importe quel niveau de la hiérarchie, de l'évolution de carrière de la femme?
Oui, parce que je voudrais ajouter aussi que bon, non seulement il y a le salaire à l'entrée qui n'est pas bien négocié, il y a les augmentations qui ne se réclament pas de manière régulière et suffisamment assertive. Il y a encore une fois la maternité. Et là, il y a encore le biais de maternité qui s'invite dans la vie d'une femme. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas faire d'enfants, donc c'est les femmes qui les font, c'est les femmes qui doivent aller accoucher, qui prennent des congés de maternité pour s'occuper de leurs enfants. Et là aussi, c'est un ralentisseur de carrière formidable, la maternité.
Ouais.
Quand elle n'abandonne pas purement et simplement sa carrière, comme je le disais tout à l'heure en début de mission, ça va être un ralentisseur de carrière. Cette année où elle va aller accoucher, elle ne va pas avoir d'augmentation. C'est très discriminant, parce qu'elle est punie quelque part d'être allée accoucher. Elle ne va pas avoir de prime, elle ne va pas avoir de bonus, parce qu'elle est allée accoucher. Et en fait, son crime, c'est quoi? D'avoir enfanté, d'avoir donné la vie. Donc, rien n'est pensé, justement, pour ces femmes-là. Alors, il y a des entreprises formidables, on en a rencontré, des signataires de notre charte, qui augmentent leur femmes quand elles vont accoucher. Ils leur donnent leur bonus, même si elles se sont absentées 3 mois. Ils vont aménager un congé de maternité avec du mi-temps pour leur permettre de reprendre doucement, qu'ils vont leur accorder quelques jours de télétravail pour pouvoir manager entre vie de famille et vie professionnelle. Et ça, c'est les entreprises qui ont tout compris.
Ouais.
Ils ont compris que s'ils veulent retenir leurs femmes et leurs talents, parce qu'elles ont...
C'est des talents avant tout, absolument.
Beaucoup de talents. Eh bien, ils doivent leur mettre les conditions pour les retenir et favoriser leur retour, en tout cas, à l'entreprise, et ne pas les discriminer.
Alors, Soumaïa Benjelloun, pour revenir à toi en particulier, toi tu es cofondatrice d'une entreprise, donc tu l'as dit, depuis 25 ans, et tu es DG de cette entreprise. Donc, on va dire, oui. tu es la patronne de toi-même. Et pourtant, tu milites à travers cette association pour la place de la femme dans le monde professionnel au sein de l'entreprise. En même temps, toi, tu étais loin de tous ces ressentis, de tout ce vécu. Qu'est-ce qui t'a sensibilisée à ce travail associatif et militant et féministe, comme tu l'as dit tout à l'heure?
Alors moi, mon féminisme, il remonte à la petite enfance déjà.
Oui.
Je suis née dans une famille où il y avait 5 filles, mais il n'y avait pas de garçons. Déjà, on devait faire notre place et prouver qu'on était aussi bien qu'un garçon. Parce que quelque part, les parents auraient voulu avoir un garçon. Je sais que maman essayait d'avoir un garçon, mais finalement, on était 5 filles. On est très bien comme ça. Mes parents sont aujourd'hui très heureux d'avoir une fratrie de 5 filles. Mais du coup, nous, on avait besoin de prouver à nos parents que on valait aussi bien qu'un garçon, qu'on réussirait aussi bien qu'un garçon. Donc déjà, c'était un cheminement personnel. Et j'ai aussi vu dans ma famille certaines femmes vivre une certaine précarité parce qu'elles avaient perdu leur mari et qu'elles ne travaillaient pas, avec des enfants à charge. C'est des choses que moi, enfant, m'ont beaucoup marquée. Donc, je me suis toujours jurée d'avoir un métier, d'avoir une indépendance financière. Et le fait d'avoir monté mon entreprise, là aussi, je viens d'une famille où les gens entreprennent. C'est-à-dire j'ai eu beaucoup de modèles d'entrepreneurs autour de moi. Pas forcément femmes, hein, mais dans ma famille, on est très indépendants. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment le modèle que j'ai vu le plus autour de moi. Je n'ai pas vu de cadre supérieur, d'avocat ou de médecin. Je n'ai vu que des entrepreneurs. Donc, c'était tout naturel. C'est venu naturellement. J'ai cofondé mon entreprise avec ma sœur. Et c'est vrai que ça nous a permis, bon, c'est beaucoup de travail hein, et de responsabilité d'avoir sa propre entreprise. Et c'est vrai qu'on était nos propres patronnes. Donc, on n'a pas eu à subir ces discriminations que peuvent subir des femmes en entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes aujourd'hui quittent le marché, enfin, quittent les entreprises pour aller se lancer elles-mêmes en auto-entrepreneur, ou elles montent leur entreprise, ou elles se lancent en indépendante parce que justement elles peuvent mieux gérer leur temps et mieux équilibrer entre leur vie professionnelle et leur vie de famille.
Oui.
L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un point.
Pardon, j'ai pas entendu le dernier mot.
L'entrepreneuriat est un très bon moyen de trouver son équilibre entre vie professionnelle et vie de famille.
Oui.
Même si c'est très, très, accaparant aussi. Hein.
Oui.
On est responsable d'une entreprise et on a beaucoup de responsabilités. Mais c'est vrai que si j'ai besoin... mes enfants ont grandi, mais quand ils étaient petits, si j'avais besoin d'aller à la fête de l'école à 11h du matin, je n'avais pas à demander la permission à quelqu'un.
Permission,
si je devais emmener mon enfant se faire vacciner, je n'avais pas besoin de demander la permission à quelqu'un.
Oui. Voilà. Alors, justement, toi, tu as commencé à entreprendre il y a 25 ans. 25 ans après, aujourd'hui, où l'entrepreneuriat est aussi a commencé à être investi par les femmes, parce qu'avant, c'était vraiment, je pense, plutôt masculin. Maintenant, 25 ans après, comment le monde de l'entrepreneuriat a-t-il évolué, selon toi?
Alors, il y a beaucoup plus de femmes. Mais la taille des entreprises des femmes reste petite. Ça reste de la TPE pour la plupart.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup de mal à accéder au financement. Voilà, tout simplement. Et au financement, peut-être qu'elles dégagent moins de temps que des hommes qui ont 90% de temps à consacrer à leur travail, alors qu'une femme doit équilibrer entre sa charge mentale et domestique, qui est souvent très importante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est non seulement les enfants, mais c'est souvent à partir de 50-55 ans, on commence à s'occuper de nos parents qui deviennent âgés, qui deviennent souvent malades. Une femme n'a pas 90% de son temps à consacrer à son entreprise. Et même quand elle consacre beaucoup de temps dans son entreprise, il y a ce problème de financement. Il y a très peu de programmes. Il y en a, mais il y en a très peu. De programmes dédiés aux femmes. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose à faire. Au niveau des banques, au niveau des pouvoirs publics, si on veut encourager l'entrepreneuriat féminin, il faut mettre en place les dispositifs nécessaires.
Mmh. En fait, cet entrepreneuriat féminin, il est de plus en plus investi par les femmes et c'est principalement cette recherche de liberté.
De liberté, oui, absolument. Oui. De réalisation, de liberté. Souvent, elles ont une carrière derrière elles. Elles se lancent en freelance, elles deviennent consultantes indépendantes. Et elles se rendent compte qu'en étant consultantes indépendantes, elles gagnent mieux leur vie que quand c'est une entreprise qui les facture à un client.
Exact.
Quand elles sont consultantes, par exemple. Elles gagnent mieux leur vie tout en choisissant leurs clients, tout en choisissant leur mission, tout en choisissant le moment auquel elles veulent mener à bien ces missions. Bien sûr que ça leur donne une liberté formidable.
Ouais.
Et elles réussissent très bien.
Mmh. Alors, vous êtes une fratrie de filles, de sœurs. Et toi, Soumaïa, tu as des filles aussi?
J'ai deux garçons et une fille.
Et une fille, ok. Alors, justement...
Je les ai... De la même manière aussi, il n'y a pas de différence dans la manière de les éduquer. Ils sont... aujourd'hui, ils sont tous les trois étudiants. Donc, je les pousse, je les encourage de la même manière.
Vers l'entrepreneuriat aussi?
Pas forcément. Non, ma fille s'est dirigée vers des études de droit. Elle voudrait être avocate d'affaires, comme son grand-père. Donc, je l'encourage dans cette voie. Les garçons sont plus entrepreneuriat et finance.
Ok, ok. Bon, en tout cas... Ouais. Alors, pour finir peut-être, on revient sur la feuille de route 2026 de WeFoshi.
Oui. Elle est très ambitieuse, la feuille de route 2026 de WeFoshi. On a plusieurs projets en cours. On va commencer par notre charte de la diversité du genre qu'on a envie de massifier, les faire signer au plus grand nombre d'entreprises. Donc vraiment, on a mis tous les moyens en place pour ça. Et on est aidé par des partenaires comme la CGM, comme le Club des femmes des RH, qui nous permettent de massifier notre charte auprès des entreprises. Ensuite, nous avions, il y a 3 ou 4 ans, lancé une campagne de sensibilisation aux biais de genre à travers des capsules vidéo, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube. Et c'était la campagne Moussaouat. Ce sont vraiment des capsules qui nous aident beaucoup dans notre travail de sensibilisation. Mais lors de nos ateliers dans les entreprises, on intervient dans les entreprises, lors de nos différentes conférences, on les diffuse et elles font toujours beaucoup d'effets, elles sont très puissantes et elles suscitent toujours le débat. Donc là, on est en train de travailler sur la campagne Moussaouat 2.
Eh bien, Soumaïa Benjelloun, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.